Le Dauphinien et sa fiancée, la petite Isabelle de Poitiers, qu'on n'appellerait bientôt plus qu'Isabelle de France, offraient le spectacle de la plus touchante entente. Ils mangeaient au même plat. Le Dauphinien choisissait pour sa future épouse les meilleurs morceaux de ragoût d'anguille, en fouillant avec application dans la sauce, et les lui mettait de force dans la bouche, lui barbouillant tout le visage. Les autres bambins les enviaient beaucoup d'avoir déjà une situation de couple. On allait leur constituer à l'intérieur de la maison du régent leur petit hôtel personnel, avec leur valet à cheval, leur valet à pied, leur femme de chambre. Jeanne de Navarre, elle, ne mangeait rien. Sa présence à ce festin avait été imposée, et comme les enfants sont vifs à deviner les sentiments de leurs parents et à en exagérer les démonstrations, tout le cousinage de cette malheureuse orpheline se détournait d'elle. Jeanne était parmi les plus petits, elle n'avait que 5 ans. À la seule différence qu'elle était blonde, elle commençait à montrer de nombreux traits de ressemblance, front bombé, pommettes hautes, avec sa mère. Enfant solitaire qui ne savait pas jouer et vivait entre les domestiques dans les immenses salles vides de l'hôtel de Nel, elle n'avait jamais vu tant de monde assemblé, ni entendu pareille rumeur de voix et de vaisselle. Et elle regardait avec un mélange d'admiration et d'effroi cette débauche de victuailles sans arrêt déversée sur les tables crénelées de forts mangeurs. Elle sentait bien qu'on ne l'aimait pas. Lorsqu'elle posait une question, nul ne lui répondait. Si jeune qu'elle fût, elle avait l'esprit assez développé déjà pour penser « Mon père était roi, ma mère était reine, ils sont morts et plus personne ne me parle. » Elle ne devait jamais oublier le dîner de Vincennes. À mesure que le ton des voix montait, que les rires se répondaient, la tristesse de la petite Jeanne, sa détresse dans ce banquet de géants devenait plus pesante. Louis d'Evreux, qui de loin la vit prête à pleurer, lança à son fils « Philippe, veille un peu à ta cousine Jeanne. » Le petit Philippe voulut alors imiter le Dauphinien et poussa entre les lèvres de sa voisine un morceau d'esturgeon à la sauce d'orange qu'elle cracha dédaigneusement sur la nappe. Comme les échansons s'employaient à remplir sans cesse les hanapes, il fut bientôt évident que cette marmaille habillée de brocart allait être malade, et dès avant le 6e service, on l'envoya jouer dans les cours. Il advint donc à ses enfants de roi ce qui arrive à tous les enfants du monde lors des repas de fête. Ils furent privés de leurs mets préférés, sucreries, pièces montées et desserts. Aussitôt le festin terminé, Philippe de Poitiers prit le duc de Bourgogne par le bras et lui dit qu'il souhaitait l'entretenir en particulier. « Allons prendre les dragées un peu à l'écart, mon cousin. Venez donc avec nous, mon oncle, » ajouta-t-il en se tournant vers Louis d'Evreux. Et il appela aussi Guillaume de Mello, conseiller du duc, afin que les parties fussent à égalité. Il entraîna les 3 hommes dans une petite salle attenante où, tandis qu'on passait le vin sucré et les épices de chambre, il commença d'expliquer combien il désirait parvenir à un accommodement et quels étaient les avantages du règlement de régence. « C'est parce que je sais qu'à présent les têtes sont fort montées, » dit-il, que j'ai voulu repousser les décisions finales jusqu'à la majorité de Jeanne. D'ici là, 10 ans seront passés, et vous savez comme moi qu'en 10 années, les opinions changent assez, ne serait-ce que parce que ceux qui professaient les plus violentes peuvent venir à mourir. Je pensais donc, mon cousin, vous servir en agissant de la sorte, et je crois que vous avez mal compris mon dessein. Puisque Valois et vous ne vous pouvez pour leur accorder ensemble, accordez-vous chacun avec moi. Le duc de Bourgogne demeurait renfrogné. Il n'était pas un homme intelligent. Il craignait toujours qu'on ne le voulût tromper, ce qui ne lui évitait pas de l'être fréquemment. La duchesse Agnès, que l'amour maternel n'aveuglait pas, l'avait avant le départ solidement sermonné. « Prends garde à ne point te faire berner, ne parle pas avant d'avoir pensé, et si tu ne penses rien, tais-toi pour laisser parler messire de Mello qui a l'esprit plus fin que tu ne l'as. » Eudes de Bourgogne, à 22 ans, et investi des titres et fonctions de duc, vivait encore dans la terreur de sa mère et tremblait d'avoir à se justifier devant elle. Il n'osa répondre de front aux ouvertures de Philippe. « Ma mère vous a fait tenir une lettre, mon cousin, par laquelle elle vous disait... Que disait cette lettre, messire de Mello ?» Madame Agnès demandait que Madame Jeanne de Navarre fût remise à sa garde, et elle s'étonne, monseigneur, que vous ne lui ayez point encore fait réponse.
« Mais comment le pouvais-je, mon cousin ?» répondit Philippe, s'adressant toujours à Eudes, comme si Mello n'avait joué entre eux que le rôle d'interprète d'une langue étrangère. « C'est une décision qui relève de la régence. Me voici aujourd'hui seulement en mesure de faire droit à cette requête. Qui vous prouve, mon cousin, que je songe à refuser. Vous emmènerez, je pense, votre nièce avec vous. » Le duc, tout surpris de trouver si peu de résistance, regarda Mello et son visage semblait dire « Mais voici un homme avec lequel on peut s'entendre. »
« À condition, mon cousin, reprit le comte de Poitiers, à condition, bien sûr, que votre nièce ne soit pas mariée sans mon consentement. C'est la chose évidente. L'affaire intéresse trop la couronne et vous ne pourriez vous passer de notre avis pour donner époux à une fille qui peut devenir un jour reine de France. »
La seconde partie de la phrase fit passer la première. Eudes crut vraiment qu'il était dans l'esprit de Philippe de faire couronner Jeanne, si la reine Clémence n'accouchait pas d'un fils.
« Certes, certes, mon cousin, dit-il, sur ce point nous sommes bien dans l'agrément. »
« Alors rien ne nous divise plus, et nous allons signer un bon accord, dit Philippe. »